Cet évangile que nous avons entendu avec ses trois paraboles a quelque chose d'un peu déroutant, en particulier la première où Jésus compare le royaume des cieux à un champ dans lequel un homme a semé du bon grain. L'ennemi survient et sème l'ivraie au milieu du blé. Les serviteurs du maître s'en inquiètent et ils lui proposent d'enlever cette ivraie. Mais lui, le maître, refuse. Il dit « Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson ». Alors, à la demande de ses disciples, Jésus explique cette parabole. On l'a entendu, le bon grain, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. L'ivraie, ce sont ceux qui font l'œuvre du diable. Et voilà justement ce qui est déroutant. Pourquoi Dieu permet-il que le bien et le mal cohabitent ainsi autour de nous ? Pourquoi permet-il que le bien et le mal cohabitent dans notre monde, dans notre société, dans l'Église, dans nos familles et jusque dans notre propre cœur ? Pourquoi faut-il donc que Dieu attende pour punir les mauvais ? N'est-il pas assez puissant pour écarter ceux qui font le mal ? La réponse, en tout cas une réponse que l'on peut trouver, elle vient de l'identité de Dieu, de ce qu'est Dieu. Notre Dieu est un Dieu patient et sa patience est l'expression de sa toute-puissance comme de sa miséricorde. La patience de Dieu, c'est l'expression de sa toute-puissance et justement parce qu'il est tout-puissant, rien n'échappe à Dieu. Nous, en présence du mal, en présence de l'épreuve, nous sommes pris par l'inquiétude, parfois même par la panique. C'est vrai, le mal semble si fort et nous nous sentons bien faibles et parfois bien seuls pour affronter ce mal. Mais c'est oublier que notre monde est dans la main de Dieu et que rien de ce qui se passe dans ce monde n'échappe à Dieu, rien ne lui échappe. Oui, Dieu se permet de patienter pour éradiquer le mal. C'est vrai, on a du mal à le comprendre, ça nous révolte. Mais c'est justement, s'il patiente, le signe que Dieu contrôle la situation. Voyez, dans la vie de tous les jours, celui qui a peur, celui qui n'est pas sûr de son pouvoir, celui qui doute de son autorité, celui-là réagit sans attendre. Il réagit à l'opposition avec force. Il la brise. Mais Dieu, lui, est bien différent de ceux qui exercent leur pouvoir sans modération. Dieu, lui, est sûr de sa force. Il n'a pas peur de perdre son pouvoir. Il n'a pas besoin d'écraser pour régner. C'est ce qui fait dire au livre de la sagesse, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure dans la liturgie de la parole, « Dieu, ta domination sur toute chose te permet d'épargner toute chose. » Le Seigneur exerce son pouvoir avec une douce patience. Rien n'échappe à Dieu et nous savons, nous croyons que toute justice sera rendue. On l'entend souvent et on a raison. Dieu est lent à la colère, Dieu est clément, Dieu est miséricordieux. Mais la miséricorde du Seigneur va de pair avec sa justice. Dieu se présente à nous aussi comme un Dieu juste. À la fin des temps donc, le Seigneur Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Et alors, toutes les nations viendront se prosterner devant lui. Chacun lui sera enfin soumis. Et le bien triomphera définitivement et visiblement sur le mal. Nous en avons l'assurance parce que le Christ, par sa mort et sa résurrection, a vaincu la mort et le péché. Ainsi, chers amis, nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas nous décourager de la présence du mal en ce monde. Vous avez du super matos, j'ai l'impression que ça marche une fois sur deux le micro. Nous ne devons pas nous décourager de la présence du mal en ce monde. Dieu est déjà en train de réaliser son œuvre de salut. Le bon grain se développe jour après jour, discrètement et silencieusement. Mais à la fin, nous savons qu'il portera du fruit, ce bon grain. La patience de Dieu est l'expression de sa toute-puissance. Elle est aussi la manifestation de sa miséricorde. Dieu laisse à chacun la possibilité de changer. Là aussi, l'Écriture sainte le dit, après la faute, Dieu accorde la conversion. Nous, parfois, on s'agace du mal que les autres font, mais qu'en est-il du mal que nous accomplissons, du mal dans lequel nous retombons jour après jour, confession après confession? Après la faute, Dieu accorde la conversion. Dieu ne désespère jamais de transformer l'ivraie de nos cœurs en bon grain. Voilà pourquoi Dieu prend le risque de laisser pousser l'ivraie au milieu de son champ. Parce que la force du bien est supérieure à celle du mal. Le temps permet au bien de faire son œuvre. Le bien finit toujours par triompher. Voyez, si nous ne gardions que le bon grain, ne garder que le bon grain, c'est un réflexe humain. Mais permettre à l'ivraie d'être transformée pour devenir du blé, voilà qui est proprement divin. Voilà une conversion merveilleuse que seule la patience de Dieu peut obtenir. Seul Dieu peut tirer le bien d'un mal, c'est l'œuvre de sa miséricorde. Lorsque Dieu patiente, lorsqu'il laisse à chacun la possibilité de changer, c'est un exemple qu'il nous donne. Laisser aux autres la possibilité de changer, combien c'est important, en particulier dans nos vies de famille. Trop souvent, nous enfermons les membres de notre famille dans telle ou telle case. Il est ainsi, il ne changera jamais. Bien souvent, nous faisons de même dans le regard que nous posons sur la société. C'est ainsi, ça ne changera pas. Ceux que nous voyons faire le mal, nous les condamnons par un jugement hâtif et définitif. Et puis même parfois, si on se l'avoue un peu secrètement, combien on aimerait pouvoir purger ce monde de tout le mal, les pulvériser d'un seul coup. On aimerait que le Seigneur arrache cette ivraie sans attendre. En fait, nous sommes impatients et nous avons du mal à accepter la sagesse patiente de Dieu. Mais la vie chrétienne demande tout autre chose, vous l'avez compris, elle demande d'imiter la bonté du Seigneur et de prier pour que les pécheurs se convertissent. Elle demande, la vie chrétienne, de croire à la puissance de Dieu qui est capable de changer les cœurs. Chers amis, dans cette messe, rendons grâce à Dieu pour sa patience, qui est la manifestation de sa toute-puissance et de sa miséricorde. Que nous puissions nous émerveiller de ce Dieu qui ne désespère jamais que nous puissions changer. N'oublions pas que nous sommes les premiers bénéficiaires de la patience de Dieu. Qu'à notre tour, nous fassions preuve de bonté avec ceux qui nous entourent et prions pour leur conversion. C'est toutes ces grâces que nous pouvons demander dans cette messe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Alors, aujourd'hui, Jésus se révèle à nous dans le mystère de la transfiguration que l'Église nous donne à contempler et à célébrer dans la liturgie. Un mystère, dans le langage chrétien, désigne en particulier un événement de la vie de Jésus ou de Marie, ou par exemple de l'histoire du peuple hébreu, mystère qui contient une révélation divine, mais aussi une puissance de salut qui peut se communiquer à celui ou celle qui médite ce mystère, le contemple, le comprend, l'accueille dans sa propre vie. Nous connaissons bien, je pense, vous connaissez bien les mystères du rosaire, par exemple. Et à chaque dizaine, on médite habituellement un mystère joyeux, douloureux, glorieux de la vie du Christ ou de sa mère, auquel l'Église a rajouté, à l'initiative du pape Saint Jean-Paul II, les mystères dits lumineux. Le mystère de la Transfiguration fait partie de ces derniers, avec les quatre autres mystères lumineux. Vous les connaissez, je pense. C'est quoi les autres mystères lumineux? Alors, la noce de Cana, le baptême du Seigneur, l'annonce du royaume des cieux, la prédication de l'Évangile, et puis le cinquième, c'est quoi? L'institution de l'Eucharistie. C'est bien, vous êtes des bons catholiques. Vous méditez les mystères du rosaire, c'est très bien. Donc ce sont les cinq mystères lumineux. Alors pouvons-nous nous poser deux questions aujourd'hui. comme à chaque mystère. Donc, quel est le contenu de ce mystère, donc aujourd'hui de la transfiguration de Jésus? Et deuxième question, en quoi méditer ce mystère, l'accueillir dans mon cœur de croyant, peut-il transformer ma vie? Autrement dit, quel est le sens de ce mystère pour moi, mais aussi pour nous, Église du Seigneur, qui sommes rassemblés en ce 6 août 2023. Nous devons peut-être d'autant plus nous poser la question que cette année, la transfiguration tombe un dimanche, et donc elle est davantage mise à l'honneur, et d'autre part, puisque une partie significative de l'Église est réunie en ce moment même autour du pape François à Lisbonne. Et tous ces jeunes sont un peu, qui ont passé la nuit là sur ce lieu de la messe et de la veillée, ils ont un peu planté leur tente, là comme Pierre, Jacques et Jean qui voulaient planter leur tente avec Jésus. Et donc cet événement aussi n'est pas anodin, ce n'est pas une anecdote, c'est un événement prophétique et qui comporte une sorte de dimension mystérieuse. Il nous révèle, ne nous révèle-t-il pas en quelque sorte la dimension joyeuse, lumineuse du mystère de l'Église? Sur le mont Tabor, Saint Pierre, le premier pape, a eu la grâce de contempler la gloire du Christ, la face lumineuse du Sauveur, et le pape François, le successeur de Pierre, n'a-t-il pas eu aujourd'hui, finalement, et hier déjà, et ces jours-ci, la grâce de contempler la face lumineuse et joyeuse de l'Église, qui est le corps du Christ? Vous savez que Jésus-Christ, enfin l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué, nous dit Bossuet, et Sainte Jeanne d'Arc nous dit que l'Église et le Christ, c'est tout un. Et donc, nous pouvons découvrir que l'Église est appelée, dans toute son histoire, à prolonger les mystères de la vie du Christ, les mystères joyeux, lumineux, glorieux, douloureux. Et donc, on peut dire que dans certains événements de la vie de l'Église en particulier, se révèle aussi une face, par exemple, lumineuse du mystère du Christ. Mais nous ne sommes pas à Lisbonne, mais nous sommes à Beaurepaire. Alors, nous pouvons nous demander, peut-être de manière plus ordinaire, dans cette Église, quel sens a pour nous ce mystère de la transfiguration aujourd'hui? Alors, savez-vous à quel saint est dédiée cette Église? Saint-Michel? Alors, bon, moi je vois Saint-Pierre et Saint-Paul, mais c'est peut-être la paroisse qui est dédiée à Saint-Michel, mais Saint-Benoît, c'est le nom de la paroisse. Bon, en tout cas, moi j'ai vu Saint-Pierre et Saint-Paul en particulier dans cette église. Et il y a des fresques qui leur sont consacrées. Et donc, il me semble que, vous voyez, la vie de Pierre et Paul a été transformée, transfigurée par leur rencontre avec le Christ. Ils ont fait tous les deux une expérience décisive, divine, transformante. Ils ont fait une expérience du Christ glorieux. Pierre à la transfiguration en particulier, puis lors des apparitions du Christ ressuscité. Et Paul aussi a fait une expérience du Christ ressuscité lors de sa chute et sa conversion sur le chemin de Damas. Il a expérimenté la divinité, la gloire du Christ. Vous voyez, donc, tous les deux en particulier, ils ont, comme aussi Jacques et Jean, là, qui étaient avec Saint-Pierre, ils ont eu la grâce de voir le Christ dans la gloire. Et ils en ont attesté dans leurs lettres, d'ailleurs. Si vous avez fait attention à la deuxième lecture, Saint-Pierre évoque cet épisode de la Transfiguration et Saint-Paul aussi, dans ses lettres, rappelle cette grâce qu'il a eue de contempler le Christ glorieux. Mais je trouve intéressant d'évoquer ces deux personnages, Pierre et Paul, parce que, comme chacun de nous, ils ont fait aussi l'expérience de la croix, l'expérience aussi de la vie ordinaire avec le Christ, qui n'est pas fait habituellement uniquement de moments glorieux et lumineux, mais aussi de ténèbres, de l'épreuve, du doute, qui ont jalonné leur existence, comme elle jalonne la nôtre, je pense aussi. Et donc le Christ n'a pas épargné ses apôtres. Parfois, là, comme dans le mystère de la Transfiguration, il se révèle à eux dans la face glorieuse de sa personne, mais la plupart du temps, les apôtres, ils ont aussi eu affaire à l'épreuve de leur faiblesse d'hommes pécheurs, comme vous le savez, et l'Écriture ne nous le cache pas, Pierre et Paul ont été des hommes pécheurs. Pierre a renié Jésus lors de la Passion. Paul a persécuté son Église. Et ils ont dû longtemps vivre un petit peu l'épreuve de l'humiliation, la culpabilité que pouvait représenter pour eux cette épreuve du péché. Mais ils sont passés aussi par l'épreuve de la Passion du Christ, des contradictions, des persécutions subies à cause du nom de Jésus. L'épreuve des souffrances physiques et morales dont ils n'ont pas été épargnés. Vous voyez donc, Pierre et Paul illustrent bien un petit peu cette ambivalence du mystère de la transfiguration qui finalement nous rappelle dans nos existences, dans la vie chrétienne, cette alternance de la lumière et des ténèbres, de la grâce et du péché, de la pesanteur et de la grâce. Et donc, ce que peut-être ce mystère de la transfiguration nous invite à accueillir, c'est d'accepter cette transformation progressive de nos existences. C'est peut-être un des messages du Christ et surtout que du Père qui nous est adressé pour nous réconforter, pour réconforter les croyants que nous sommes face à la tentation, peut-être du doute et de la crainte des épreuves de la vie. Et peut-être aux contradictions que nous traversons, peut-être dans nos vies de famille ou nos vies professionnelles, toutes sortes d'épreuves qui sont les nôtres aussi, comme elles ont été le lot des apôtres. Eh bien, vous voyez, ce moment de gloire particulier du Christ, que la Transfiguration est là pour nous réconforter et pour nous encourager. Alors, le pape François, tout à l'heure, à Lisbonne, a souhaité insister sur trois aspects. Trois verbes, vous avez peut-être fait attention si vous avez suivi son homélie. Il a parlé du verbe briller, du verbe écouter et du verbe craindre, ne pas craindre, voyez. Donc, probablement que nous sommes invités en ce dimanche de la Transfiguration. Alors, à briller, nous aussi, comme le Christ, puisque le chrétien est un autre Christ, mais pas forcément à la manière du monde, puisque nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de lumière, beaucoup d'écrans, beaucoup de paraître. Alors, briller pour un chrétien, c'est briller de l'intérieur. C'est peut-être un des messages à retenir, une transformation de nos vies pour ne pas chercher à plaire au monde, mais à faire briller la lumière du Christ en nous. Le jour de notre baptême, nous avons reçu une bougie. Chaque baptisé doit faire briller dans le monde la lumière du Christ. Le deuxième verbe, c'est écouter. Le Père a dit à Pierre, Jacques et Jean, écoutez-le. Et nous aussi, nous sommes invités à écouter. Écouter Jésus dans nos vies. Mais voyez, peut-être écouter ce que les autres nous disent. Nous sommes dans un monde où, justement, il y a tellement de bruit que il me semble qu'il y a une urgence à faire attention vraiment les uns aux autres, à écouter, on pourrait dire aussi à regarder avec bienveillance, avec attention ce que les autres nous disent, ce qu'ils sont, parce que Dieu se révèle à nous à travers tous ceux qu'il met sur notre chemin. Et une des choses dont le monde a le plus besoin, c'est de personnes qui soient à l'écoute. Le troisième verbe que le pape François a souligné, c'est ne pas craindre. Et nous sommes dans un monde qui est sous l'emprise de la peur. Eh bien, le Christ nous invite à ne pas avoir peur. Puisqu'il est mort et ressuscité pour nous, de quoi pouvons-nous avoir peur? Or, nous le savons bien, nous avons tous des peurs, des craintes qui sont autant de paralysies qui nous empêchent de rayonner de la lumière du Christ. Et bien, peut-être que cette transformation du monde que les jeunes des JMJ sont allés un petit peu conquérir et à laquelle nous aspirons, j'espère, cette transformation du monde, elle doit s'opérer à travers une transformation intérieure de nos vies. En faisant briller cette lumière du Christ à l'intérieur, en nous mettant à l'écoute et aussi en ayant de l'audace, en n'ayant pas peur. Vous voyez, certainement qu'une des grandes armes du diable dans le monde aujourd'hui, c'est la peur. On voit comment les peuples qui se craignent les uns les autres se font la guerre. Quand on a peur, on entre en conflit. mais au contraire, peut-être nous devons apprendre à cultiver une attitude de confiance. Et ça s'apprend au quotidien, les uns avec les autres, à faire confiance, à oser aller à la rencontre, peut-être cette semaine, pourquoi pas, ceux avec lesquels nous avons un peu plus de mal dans nos relations, bien pourquoi pas oser faire confiance, oser cultiver cette attitude de bienveillance, d'écoute, pour pouvoir peut-être laisser ce mystère de la transfiguration opérer en nous cette transformation intérieure. Vous voyez, ce mystère de la transfiguration, c'est un mystère de la vie de Jésus, mais dans chacune de nos vies, il y a aussi une dimension mystérieuse. Et elle s'opère dans la mesure où nous laissons les mystères de Jésus opérer cette potentialité de transformation, de glorification, d'illumination, de pacification, pour que ce ne soit plus seulement Jésus, nous-mêmes, pardon, qui vivions, mais, comme dit saint Paul, Jésus qui vive en nous. Bien, pouvons-nous peut-être, en ce beau dimanche de la Transfiguration, nous laisser toucher par ce mystère de la transfiguration de Jésus, mais aussi ce beau mystère de la vie de l'Église, que sont les Journées mondiales de la jeunesse, qui sont un appel pour chacun, quel que soit notre âge, à nous laisser aussi toucher, parce que la jeunesse, ce n'est pas qu'une période de la vie, c'est un état d'esprit, c'est une manière d'accueillir la vie, comme quelqu'un qui se réveille chaque matin et qui accueille la vie comme une occasion d'aller à la rencontre des autres et de nous laisser transformer pour transformer ce monde. Ainsi soit-il.